Axel, à la une de la science aujourd'hui, on parle d'une drôle d'exoplanète.
Oui, elle s'appelle Gliese 3470 et elle a de quoi nous intriguer, Mathieu. Parmi les 4000 exoplanètes découvertes à ce jour, elle fait partie du cercle très fermé des 20 dont on peut étudier l'atmosphère facilement. Et c'est en observant cette atmosphère avec le télescope Hubble qu'on s'est rendu compte qu'elle s'évaporait littéralement. Elle perd 10 000 tonnes de gaz par seconde et devrait finir sa vie complètement sèche. Pour en parler, nous sommes en studio avec un des chercheurs qui publie ce travail, Alain Le Cavalier des Étangs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche pour le CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors pourquoi cette planète fond-elle et comment est-ce que vous en êtes rendu compte ?
Alors elle fond tout simplement parce qu'elle est très proche de son étoile. Elle tourne en 3 jours autour de son étoile quand la Terre met 1 an à faire le tour du Soleil. Donc elle est très très proche, 1/30 de la distance Terre-Soleil de son étoile. Et c'est la raison pour laquelle elle perd de son gaz. Finalement, c'est un apport d'énergie, l'énergie de l'étoile sur la planète. Et il y a une compétition entre la gravité qui retient le gaz et l'énergie apportée par l'étoile.
Surtout qu'elle est plus grosse que la Terre et qu'elle rapetisse seconde après seconde. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui, alors elle a perdu probablement depuis les 2 milliards d'années qu'elle s'est formée. Elle a perdu peut-être à peu près 1/3 de sa masse. C'est pas considérable, mais c'est suffisant quand pour même. Imaginer.
Ah, pas mal, ouais.
Oui, si vous faites une cure d'amaigrissement, que vous perdez 1/3 de votre masse, c'est un succès.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, donc c'est finalement l'analogie est très bonne parce que ça montre que c'est suffisant pour éventuellement changer la nature de cette planète. Mm-hmm. Parce que là, on a affaire à une planète typiquement de la nature des planètes comme Uranus ou Neptune. C'est une planète qui fait 14 fois la masse de la Terre. Mais il y a entre ces planètes de masse intermédiaire, il y a les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, 300 fois et 100 fois la masse de la Terre, et puis il y a les planètes telluriques. Donc là, on est dans une gamme de masse tout à fait intermédiaire, et on avait observé depuis quelques années qu'il n'y avait pas de planètes de masse intermédiaire très proches de leur étoile. C'est ce qu'on a appelé le désert de planètes, parce qu'il y avait un désert de planètes dans un diagramme où on trace la masse et la distance de la planète à son étoile. Et donc l'absence de planètes de ce type restait une énigme. Et l'observation de cette évaporation et échappement quasi catastrophique nous a permis de comprendre probablement un des mécanismes clés qui explique ce désert de planètes.
Alors quand j'ai dit tout à l'heure qu'on la voit fondre sous nos yeux, c'est pas complètement vrai. Qu'est-ce que vous voyez avec les images du télescope Hubble concernant cette planète ?
Alors nous n'avons pas d'image en réalité, j'ai pas de splendide photographie à vous montrer. Ce que nous faisons, c'est de la spectroscopie. Nous analysons la lumière de l'étoile au moment où la planète passe devant. Et quand la planète passe devant, une partie de la lumière de l'étoile a traversé les couches atmosphériques et elle donne une empreinte, une signature de ces couches atmosphériques dans la lumière que nous analysons avec des spectrographes. Donc ce qu'on a vu, c'est un énorme nuage d'hydrogène qui cache une surface équivalente à 1/3 de la surface de l'étoile. Donc c'est un énorme nuage d'hydrogène, et on a pu mesurer sa vitesse. Et la combinaison des deux informations, la taille du nuage et la vitesse, nous permet de conclure au taux d'échappement une perte de gaz de 10 000 tonnes par seconde.
On connaît d'autres planètes qui subiraient ou auraient subi le même sort, peut-être dans le système solaire ?
Alors dans le système solaire, non, parce que les planètes sont beaucoup plus loin. Même Mercure met plus de 80 jours à faire le tour du Soleil. Mais on connaît d'autres planètes dans les systèmes extrasolaires. On connaît d'autres planètes qui perdent du gaz. On en connaît une qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années, mais elle perd à peu près la même quantité de gaz, à peu près 10 000 tonnes de gaz par seconde, mais il s'agit d'une géante gazeuse, de la masse de Jupiter typiquement. Et là, le réservoir de masse est suffisant pour pas que ça ait d'impact. Et on connaît aussi une autre planète de type Neptune qui perd aussi du gaz, mais là c'est 100 fois moins. Et donc, à nouveau, pas d'impact majeur sur la nature de la planète. Là, c'est la première fois où on voit une évaporation quasi catastrophique qui a un impact sur la nature de la planète.
Alors, ça fait pas très très longtemps qu'on étudie les exoplanètes en détail comme ça. Est-ce que, avant de le faire, on imaginait qu'une planète puisse avoir une histoire de vie comme ça, c'est-à-dire qu'elle commence gazeuse et elle termine tellurique ?
Non, c'est peut-être un des succès de ces 20 dernières années de découverte d'exoplanètes, c'est la compréhension de l'évolution des systèmes planétaires. Il y a encore 20 ans, on imaginait que les planètes se formaient en même temps que leur étoile, et puis que le système était figé pour l'éternité jusqu'à la fin de vie de l'étoile, et que ça bougeait pas, comme dans le système solaire. En réalité, on réalise que au cours de la vie de l'étoile, les systèmes planétaires évoluent, et les planètes peuvent changer de nature dans la durée de vie de l'étoile.
Oui, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on étudie en détail une exoplanète, on découvre de la diversité en plus qu'on n'avait pas imaginé.
Oui, je crois que vous avez utilisé exactement le mot-clé qu'il fallait, le mot « diversité ». On connaît près de 4000 exoplanètes aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui ressemble peu ou prou au système solaire, et aux planètes du système solaire. Et finalement, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle planète, elle est surprenante et elle est différente des autres. Et donc, le mot-clé, c'est la diversité. Et ça nous permet évidemment de découvrir de tas de choses inattendues.
On peut estimer sa durée de vie encore, là, aujourd'hui ?
Alors, elle va probablement perdre un peu de masse encore, mais au bout d'un moment, elle va changer de nature. Et quand le gaz sera échappé, il restera plutôt les éléments lourds, plutôt le noyau rocheux qui est au cœur. Mmh. Et là, le taux d'échappement baissera. Donc en fait, quand elle atteindra le stade tellurique, là, elle ne bougera plus en quelque sorte. Ça sera un résidu, ce qu'on a appelé les planètes ptoniennes, c'est-à-dire les planètes résidus d'évaporation.
Belle découverte, en tout cas, merci beaucoup Alain Le Cavelier des Étangs, c'était passionnant. Et Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une.
Oui, à demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la COP24 qui vient de se terminer en Pologne, sauve l'accord de Paris, mais ne fait guère plus. La 24e conférence des Nations Unies pour le climat a finalement abouti à un accord samedi soir. La notice pour l'application de l'accord de Paris a été adoptée, mais le reste du bilan reste très décevant. La prise en compte des droits humains et des pays pauvres face aux risques climatiques n'a pas abouti. Même le dernier rapport du GIEC a reçu une approbation réticente. La prochaine COP se tiendra l'an prochain au Chili. La maladie d'Alzheimer pourrait être transmissible, mais attention, certainement pas contagieuse. C'est une étude sur la souris qui confirme que les plaques amyloïdes, ces amas de protéines responsables de la maladie, peuvent être déplacées d'un cerveau à un autre et causer donc de nouveaux dommages. Ces résultats confirment une étude de cohorte parue en 2015. Le transfert est dit actif et n'est possible que dans certains cas très particuliers de traitement ou de chirurgie. Les chercheurs anglais à l'origine de ces travaux appellent à une rapide prise en compte de leurs résultats dans les protocoles pharmaceutiques et hospitaliers. Et puis pour terminer, la très vieille plainte d'un consommateur mésopotamien, une tablette d'argile datée de 3800 ans, découverte dans l'ancienne cité de Ur en Irak actuel, relate la colère d'un homme nommé Nani. Il se plaint de son fournisseur qui n'aurait pas livré la bonne quantité de cuivre durant sa tournée. La traduction réalisée à partir de l'acadien cunéiforme fait de cette tablette de 10 cm par 5 la première trace d'un service après-vente 1700 ans après Jésus-Christ.